deux choses importantes de Dieu à des résultats originaux. Dans ces dernières années, alors quels sont-ils? Est-ce que certains d'entre vous ont la curiosité d'aller regarder, par exemple, dans l'un des résultats, celui dont je voudrais parler plus particulièrement ce soir? Ou ont la curiosité d'aller regarder les deux derniers articles, les deux derniers textes que j'ai mis à la page? Des signaux, vous pouvez expliquer ça dans la page. Vous pouvez aller regarder ça dans la page du texte en ligne à l'adresse qui porte mon nom, qui s'appelle Jean-Michel Barbeau, point.fr. Mais il y a un point entre Jean-Michel et Barbeau. Bon, donc c'est pas la peine de faire H Les dessins que j'ai envoyés avec l'annonce, ils se trouvent dans ces deux textes. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le premier, on va l'appeler la révolution corps. À en traiter même dès le séminaire qui s'appelle Problèmes cruciaux pour la psychologie, deuxième année de la grande donne à l'école normale de la République. Et chaque année, puis encore, il y a 3 années d'ailleurs, c'est un titre qui se prolonge, ce moment-là, dans Ou pire et encore, il introduit deux leçons sur le nœud européen. Il y a deux leçons, dans une dans Ou pire, une dans encore, et les années suivantes, les trois années suivantes, qui sont les noms du R, RSI et le symptôme, qui traitent principalement du nœud. Et là, il est question de souris et de tollé. Il fait appel à souris et à tollé qui vont lui apporter des éléments. Donc, il fait ces trois années de séminaire où le nœud joue un rôle principal. Et puis, il y a une coupure, et il y a les quatre années que je vais commenter maintenant. Bon, alors, le résultat de tout ça, c'est que on a les formules de la sexuation et puis on a dans le symptôme une nouvelle théorie du symptôme. Le symptôme psychotique en Schrader, psychose schrederienne, psychose freudienne. Chez Freud, je veux dire, la psychose freudienne, c'est Schrader. Donc la psychose freudienne va être remplacée par Lacan par une autre définition de la psychose comme personnelle. Au lieu d'avoir trois rondes d'effets disjoints, non enchaînés, on avait une question là du nœud trait, du nœud propre. C'est déjà notable, c'est curieux. On passe de délire écrit par trois ronds libres à un délire écrit par un nœud trait. Alors quelle est la différence? Trois ronds libres, vous voyez bien qu'il n'y a pas de nœud. C'est l'absence du nœud qui semblait spécifier la psychose. Et Lacan le dit dès 1967, parce que ce dont je parle là, ça a commencé pour ce premier problème en 1965, avec le problème de l'évolution, mais l'autre problème, le second problème qui apparaît dans les derniers séminaires, et que nous allons appeler la question de l'écriture de la fonction paternelle. Eh bien, ça concerne spécialement justement le signifiant. Ça concerne spécialement ce que Lacan a nommé le discours d'Europe, le signifiant du monde père, qui est spécifié par la fonction paternelle. Et Lacan propose de l'écrire par le moyen de l'écriture spécifique. Et cette écriture, c'est le nœud borobien dans lequel il y a une nœud qui est une chaîne d'ailleurs. Cette chaîne que Lacan appelle un nœud écrit cette fonction paternelle. En tant qu'un quelconque des ronds va y jouer une fonction exceptionnelle dans la mesure où chacun vient indifféremment homologue, homogène aux autres. Quelconque, que ce soit, ça commence à 3, vous allez tout de suite voir pourquoi ça commence à 3, parce que un quelconque, si vous en voyez 3, 4, 5, vous voulez à partir de 3, ils sont tous homogènes, ils peuvent être retirés, l'un d'entre eux peut être retiré indifféremment, donc c'est bien une banalité, c'est une fonction banale que chacun peut. L'argument, c'est une fonction qui remplit la fonction, ça peut prendre la place de l'argument. chaque qu'on peut prendre la place de l'argument de cette fonction et, étant banal, il a cette fonction aussi exceptionnelle de défaire toute la chaîne, de libérer tous les autres. Alors c'est pour ça qu'on peut comprendre que ça commence à 3, parce que à 2, ça paraît un peu trivial, c'est-à-dire que dès que vous avez deux éléments, si vous en tirez un, l'autre, vous êtes tout seul. Alors il y a des gens qui font des finales, des finasses, des gens qui font la distinction entre une chaîne avec des nœuds propres, entre deux nœuds trêves, et les enchaîner. Et c'est pas pour rien, justement, parce que c'est pas la structure du nœud uniquement, parce que si je retire un des deux ronds, un des deux nœuds, l'autre reste noué, reste un trêve. Alors qu'il y a des cas comme la chaîne de Whitehead. C'est aussi vrai dans la strain plus simple. Si vous tirez un des deux, l'autre devient un rond non seulement libre, mais trivial, pas noué. Pas noué sur lui-même. Ça, c'est des variantes que nous aurons à considérer dans la deuxième question. Puisque Lacan va avoir à émettre un doute dans le séminaire dans les 4 dernières années, spécialement, ça va être dans le champ du temps, il va émettre un justement de la pertinence de cette écriture, parce qu'il s'aperçoit qu'un dessin de souris, il s'est trompé. Lui-même, Lacan, il a cru quelque chose qui n'est pas exactement ce qui se passe. Alors, il y a des situations qu'il n'avait pas envisagées. Il n'avait pas vu les choses de cette manière-là. Alors, donc, il ne pensait pas, il n'avait pas imaginé même cette situation de souris lui-même. Pour lui montrer d'ailleurs quelque chose de tout à fait autre, souris, ils disent autre chose, ils disent la présentation des travaux de Milner, et la chaîne qui monte à la course, c'est ne m'intéresse pas spécialement à la course. Souris, lui, il était parti avec une question simple. Milner est un grand mathématicien qui a fait beaucoup de choses. Il a écrit un livre qui est extrêmement court, comme ça fait, dans lequel il parle de la géométrie du point de vue topologique. Ça s'appelle du point de vue topologique. From the topological point of view. Finalement, à la fin, quand il est plus âgé, il s'intéresse aux nœuds et aux chaînes. Spécialement, il s'intéresse spécialement aux chaînes qu'il appelle lui presque triviales, qui sont les borroméens de la les chaînes borroméennes de la corde. Chez Milner, ça s'appelle chaîne presque triviale. Parce que vous voyez, c'est pourquoi c'est presque trivial. Parce que trivial, c'est quand c'est pas noué, quand les ronds sont libres, sont dispersés les uns par rapport aux autres. Et presque trivial, c'est qu'il suffit d'en tirer un pour que tout vienne trivial. Donc il appelle ça presque trivial. Alors que si chaque rond est enlacé comme ça, c'est-à-dire si chaque rond emprunte le trou d'un autre rond, si chaque rond est enlacé avec tous les autres ronds, alors c'est le contraire de presque trivial, c'est pas trivial, c'est trivialisable du tout. Enfin, c'est très difficilement trivialisable. Il faut tout retirer pour avoir des ronds libres. Chacun son. C'est la chaîne olympique. Alors, la chaîne olympique, c'est le contraire du trivial, c'est l'opposé du trivial et c'est pas presque trivial. C'est pas trivial, c'est très peu trivial. Il faut tout retirer. Enfin, s'il y en a n, il faut en retirer n-1 pour en garder un non noué à la fin. Donc, ça, c'est pas gros. C'est l'opposé du borroméen. C'est l'intérêt des chaînes, d'ailleurs, de montrer cette diversité parce que vous voyez que dans les nœuds propres, si vous n'avez qu'un seul fil, c'est peut-être pour ça que Lacan va en faire la structure de la psychose, ça devient illisible la structure de la psychose. Parce que quand il n'y a qu'un seul fil, vous n'avez pas cette diversité de possibilités, des relations des ronds avec les autres ronds. S'il n'y a qu'un rond, c'est tout pareil. C'est d'ailleurs comme ça que Lacan spécifie la personnalité comme psychose paranoïaque dans le symptôme, maintenant, en voyant donc le symptôme freudien de la psychose, freudienne, qui est la psychose de Schreber, il la renvoie comme symptôme. La psychose schreberienne devient le symptôme de la psychanalyse, puisque c'est l'ancien système de production, comme dit Marx. Un symptôme, dit Marx, c'est toujours un ancien système de production qui survit dans un nouveau système de production. Donc Lacan transforme la théorie de la psychose de Freud avec Schreber, son commentaire de Schreber, et la manière dont lui-même dit qu'il a surmonté cette structure de la psychose pour son propre cas. Quand Ferenczi lui propose de faire une nouvelle forme d'analyse, il dit non, moi j'ai réglé la difficulté que j'ai rencontrée avec Fliss, et j'ai réussi là où le paranoïaque échoue. Donc la théorie de Freud, c'était que le paranoïaque échoue dans un délire qui est une tentative de guérison, mais qui a abouti à la construction d'un objet qui ne remplit pas, c'est-à-dire qui n'occupe pas la place de l'argument, on ne peut pas devenir l'argument, cet objet de la fonction qu'il cherche à accomplir. Freud dit même donc que c'est l'ombre d'un objet et que cet objet échoue. À partir de là, ça ne se passe pas très bien pour le sujet. C'est que c'est pire que le délire, puisqu'il vient buter sur cette ombre de l'objet. Alors là, il y a diverses aspects des conséquences de cet échec. Vous en avez un en particulier qui s'appelle l'Alzheimer. Donc, comme les gens sont prévenants, on n'en dit pas Lacan, même chez les Lacaniens, on sait bien que les médecins, dans ce moment, ils ont le temps de faire leur beurre. Vous voyez que l'Alzheimer est quand même un syndrome psychiatrique aujourd'hui par ils ont isolé par un psychiatre. Et qu'on arrive à diagnostiquer grâce à un questionnaire. Ce qui est sûr, c'est que le rejet de l'inconscient qui caractérise la psychose, quand alors lui en traite dans la télévision ou dans ces termes-là, le rejet de l'inconscient, s'il fait retour, peut donner lieu à un retour maniaque, on parle même dans les tournées d'un rire sardonique, devient mortel. Donc cette espèce de crispation, et le premier Alzheimer bien connu, c'est même pour ça que là, quand on parle dans la télévision, c'est Elvis, sinon ça dérange beaucoup tous les gens progressistes et intelligents de l'université française, parce que Elvis est un grand esprit, il est un grand esprit. De linguistique générale de Denis, ces deux volumes, dont vous ne pouvez pas ne pas lire chacun. Parce que ce chacun est un petit bijou, à mon avis, y compris celui dans lequel il rejette l'inconscient. Qui s'appuie un article que Lacan lui a demandé pour la revue qu'il faisait à l'époque, de la psychanalyse, il lui a demandé d'écrire comme il a demandé d'écrire à Heidegger, traduit lui-même un texte de guerre, le Ours. Comme il avait demandé à Hippolyte de maintenant essayent de faire venir dans la psychanalyse, et à la psychanalyse, ils ont essayé d'intéresser des gens qui sont les meilleurs qu'on peut rencontrer. Et ça ne marche pas très bien, au point que ceux qui se sont laissés prendre, parce qu'ils s'y sont apparemment dévoués plus que d'autres, ceux des cahiers pour l'analyse, par exemple, de l'école normale, les élèves la plus chère, ils en sont arrivés à dire que Lacan, il faisait en sorte justement que personne vienne s'y intéresser, vienne y mettre son nez. C'est la thèse de Milner. Ah bon, juste avant qu'il écrive les noms indistincts, il le dit dans un colloque de l'école, un des derniers colloques sur la formalisation, il parle de la dispersion des ronds, il fait tout ça de manière un peu, il surfe un peu, ça de manière plus littéraire. Mais c'est toujours intéressant de lire Milner, même s'il est libre. Et puis, il fait le malin, en disant que Lacan et Freud se sont toujours acharnés à faire en sorte qu'on ne vienne pas mettre son nez, ce que je considère comme étant faux, et spécialement Lacan, au contraire, à essayer d'y intéresser et d'y attirer beaucoup de gens. Pas pour les leur faire une pièce de judo et les mettre sur son divan, comme ça se fait depuis. C'est pas de leur piquer leur pognon. Il s'agissait de vous montrer que la raison de Freud n'a pas d'utilité à avoir, et que, parfaitement, même si c'est un style différent, c'est pas un style universitaire, c'est un style qui peut choquer l'universitaire que nous sommes pour un certain nombre. C'est trop bon. Pourquoi ? Ben parce que justement, l'inconscient, c'est la condition de la mystique. Hein, la condition, le langage est la condition de l'inconscient. C'est pas l'inconscient qui est la condition du langage. Ça, c'est la planche qui a été détruite. Quand je corrige, au moment de la thèse, la préface à la thèse universitaire de l'habitat de l'âme. Mais Lacan, il ajoute une chose que Milner, semble-t-il, n'a pas lue, parce qu'il était là, il y a Thompson, avec Jacobson, grâce à Lacan d'ailleurs. Il semblerait que Milner n'ait pas lu Radiophonie. Il devrait, parce que là, il y en a une tonne. Il y a un nombre d'énoncés concernant la langue, la linguistique, le langage, l'écrit. C'est des trucs qui doivent irriser Milner, parce que la référence au lecton des stoïciens que Lacan redéfinit avant Abrégué, c'est l'exprimable. Lacan dit c'est ce qui rend lisible le signifié. Donc il y a une théorie du signifié chez Lacan. Qui s'est aperçu qu'il y avait une théorie du signifié chez Lacan? Qui a développé ça? Personne. Lacan, c'est vrai qu'il donne l'impression à première vue, il répète tout le temps signifiant, puis bon, ensuite il répète après lui signifiant, bon, on décolle plus ou moins des formules de Lacan, on ne va pas très loin, mais en plus, Lacan, lui, il a une théorie du signifié. Et moi, mon cours ici repose sur cette différence. Cette théorie du signifié, elle commence chez Lacan en position de l'inconscient. Complément au discours de Rome, dit Lacan, dans une note à la fin du texte, dans lequel il trouverez, je ne sais pas, 835 dans le premier volume des écrits, vous verrez, ça c'est facile à repérer comme passage, parce que ça vaut le coup de lire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, mais il y a un moment où Lacan apporte un complément au discours de Rome, que vous pourrez reconnaître facilement, puisque Lacan parle de la structure du langage en termes de métaphore et de métonymie. Ça, il l'a très bien vu, il l'a très bien utilisé jusque dans les 90. Jusque à la fin de 80. Et Lacan parle de métaphore et de métonymie, il marque un point, il commence un nouveau paragraphe et il dit que la question lui revient, une réverbération, on lui pose la question, alors est-ce affaire de parole ou est-ce affaire de langage? Vous voyez que en position de l'inconscient, il y a un moment donné où métaphore et métonymie viennent croiser la parole et le langage. Parce que c'est le titre du discours d'ordre, la parole et le langage dans la psychanalyse. Alors là, vous pouvez sursauter parce que vous n'en étiez peut-être pas aperçu avant. Et c'est vrai que la question se pose, et d'autant plus d'une manière criante qu'il y a des gens qui sont même sans aperçu. On va pouvoir le dire de manière consciemment, ils s'en sont aperçus, mais ils ne peuvent pas le dire. Ça reste comme ça entre deux autres. Il y a des gens qui ne lisent pas Lacan et qui ne lisent pas l'instance de la lettre à cause du fait que si on réfléchit deux minutes, on devrait dire on pousse des hauts cris, on déchire le livre, on s'enfuit en courant. Parce que Lacan, dans l'instance de la lettre, hein, ce texte qu'il a fait, c'est un discours dans un syndicat d'étudiants communistes, il a trouvé sa fille à la Sorbonne, c'est, il dit que ce n'est pas un écrit, ça ne s'adresse pas à des psychanalystes, c'est un discours pas le statut d'écrit qu'il a prévu. Et ça s'éclaire de là. Si on lit le texte, on voit que le terme, justement, le texte, va éclairer ce point. Alors, il y a une différence donc, entre les textes et les écrits. D'après ce qu'il dit au début de la lettre. Mais surtout, vous pouvez vous apercevoir, en lisant position de l'inconscient, que métaphore et métonymie pour Lacan, alors c'est affaire de parole ou affaire de langage. Parce que et métaphore et métonymie, si vous ouvrez une rhétorique, si vous ouvrez le Samuel Dinouiel, Marsay, Fontanier, si vous ouvrez les choses même plus récentes, Mu en Belgique, qui critique Lacan, qui dit que sa gerbe, dans Hugo, sa gerbe, qui était ni qui était généreuse. Eh bien, c'est une métonymie, c'est pas une métaphore. Pourquoi ? Parce que c'est la partie pour le tout, la gerbe, ça évoque la reproduction, comme le montre bien le poème, ça évoque la fonction phallique jusqu'à la fin, puisque le poème finit avec la lune est comparée par Victor Hugo et comme à une fossile, et la fossile, ça évoque le fait de couper le foin. De foin et que la castration est évoquée de cette manière. Donc, dans les rhétoriques, qu'elles soient présentielles, vous avez un peu de Cicéron. Ensuite, vous pouvez aussi dire Roland là-dessus. Ben, vous voyez que chez Frontanier, c'est très net, la métaphore est une figure de parole. Alors, Lacan, il fait un écrit. Que c'est pas un écrit, c'est un texte. Et ce texte, il s'appelle l'instance de la lettre. Et dans l'instance de la lettre, il traite de la métaphore et de la métonymie qui sont des figures de parole, pas des figures de discours. Parmi les figures de discours, c'est des figures de parole. Si on s'en tient, alors celui qui a, disons, nettoyé et repeint cette histoire de rhétorique, c'est quand même Jacobson, hein, avec une petite aphasie. Vous avez là un texte magnifique et un texte clinique en plus. À mon avis, c'est le plus grand texte clinique en dehors de ce Freud, puisque Freud a aussi écrit sur les aphasies. Mais le texte de Jacobson, c'est exemplaire. Hein, le trip ne peut pas paraître être le bourgeonnement, le printemps, le fait que les dames ont des cheveux, des robes légères et que les messieurs sont en short. Et que le trip freudien, le désir, même sexuel, c'est pas comme une envie de pisser, comme on pourrait nous faire croire, qu'on ne peut pas se retenir. Que ça bourgeonne, ça prend. C'est une crispation ou une contracture. Ben non, c'est pour Freud, sexe et tribe, on traduit par pulsion, très mal, drive, déformation, pour dire le trajet de la déformation. Le fait que le langage corps, la langue. Vous voyez bien que c'est avec du matériau qui pourrait sembler emprunté à la linguistique qu'on peut on peut traiter ça à la manière freudienne, parce que Freud, c'est vraiment une question de visibilité, de ce qui se dit et de ce qui s'écrit, qui est posé. Qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est qu'écrire, même, on ne sait pas très bien. Moi, je tiens qu'on n'en connaît que la partie émergée, la partie visible de l'iceberg, et que c'est 10% du problème. Bien qu'on écrive depuis la Chine, l'Égypte, la Bible, ensuite le grec, avant il y avait les phéniciens, puis il y avait le latin, les alphabets qui se veulent complets, qui se veulent arithmétiques, qui veulent paraître exacts, qui écrivent tout. C'est une erreur, parce que lire, c'est pas décoder, c'est pas décrypter n'importe comment. Le décryptage de la lecture, c'est pas un décodage. C'est pas terme à terme. Il se passe des choses entre le regard et la voix. Et il y a des différences entre l'écrit et la parole. Et lire, c'est pas très bien ce que c'est.